La parole du jour avec Paul Rodier.
Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bonjour. En cette troisième semaine de la nouvelle année, permettez-moi de vous la souhaiter belle et heureuse, que le Seigneur vous apporte la joie et le bonheur dans votre vie de baptisé. Au cours de cette semaine, nous allons être accompagnés par Saint François Xavier. C'est une épopée fascinante que nous allons vivre. En 10 ans, de 1542 à 1552, François Xavier parcourt quelques 100 000 kilomètres avec des moyens de transport rudimentaires. Il voyage surtout par mer, où l'étape journalière était de 80 km, mais aussi par terre et le plus souvent à pied. L'époque est unique. Le monde s'est élargi brusquement de façon inouïe. Les caravelles d'Espagne et du Portugal, prenant des risques considérables, sillonnent les océans nouveaux. Les aventuriers, les marchands, les soldats, les missionnaires rêvent de découvertes, de prouesses fantastiques, chacun sur son registre propre. À la demande du pape, Ignace de Loyola, fondateur et premier supérieur général des Jésuites, décide d'envoyer François aux Indes orientales. « En avant, me voici, » répond François, « en parfaite disponibilité, nourrie depuis longtemps, par un désir immense de servir pour une plus grande gloire de Dieu. » Il a 35 ans. C'était à Rome, le 14 mars 1540. Dès le lendemain, il part vers Lisbonne, où il arrive en juin. Il embarque quelques mois plus tard pour une des plus étonnantes aventures missionnaires de tous les temps. On a comparé cette aventure à celle de Paul, évangélisant en peu d'années une bonne partie du monde connu de son temps. Mais penchons-nous un moment sur sa vie. Xavier est le nom du château familial dans la province basque de la Navarre ancienne, près de la frontière avec la France. Durant ses premières années, tout paraît sourire au jeune François. Hélas, en 1512, il n'a que 6 ans, quand les troupes du royaume de Castille envahissent la Navarre. Les deux frères aînés de François, Miguel et Juan, combattent dans le camp navarrais. On fait appel aux alliés français, en vain. C'est la défaite. En représailles, le château est en partie démantelé sous les yeux du petit garçon. À 9 ans, 3 ans plus tard, son père meurt. Et ce n'est pas fini. Le manoir se vide car Anna, la sœur aînée, se marie. Et Madeleine entre chez les Clarisses. Les combats continuent. La Castille étant passagèrement en difficulté, les patriotes navarrais croient le moment venu de retrouver leur chère indépendance. Ils se rebellent et gagnent un premier temps, mais très vite, la chance change de camp et les Castillans reprennent la Navarre. Les biens d'Xavier sont confisqués, leur manoir étroitement surveillé. Miguel et Juan s'enfuient en Fontarabie. Ils sont condamnés à mort par contumace. L'adolescence de François se déploie donc dans l'intervalle de ces événements familiaux dramatiques. Il faudra qu'elle attende ses 19 ans pour revoir ses frères, amnistiés par Charles Quint, de retour au château mutilé. François décide de faire des études, d'y briller et de s'enrichir dans la carrière ecclésiastique. Il jette son dévolu sur la plus célèbre du moment, la Sorbonne, à Paris. Grand départ, c'est un adieu. Il ne reverra plus son austère demeure. Le Paris de l'époque compte 300 000 habitants environ et quelques 4 000 étudiants en théologie, droit et lettres. François entre au collège Sainte-Barbe, ouvert au courant réformiste propagé par des contemporains célèbres comme Erasme ou Calvin, par exemple, soutenu par la fameuse Marguerite de Navarre. François n'est pas un intellectuel. Il vise pourtant le diplôme maître Essard pour pouvoir enseigner comme régent, se trouver ainsi à l'abri financièrement et mener joyeuse vie dans le milieu estudiantin cosmopolite et facile du quartier latin. Il est plein de santé et de dynamisme. Il fait du sport et devient même champion universitaire du saut en hauteur. Il est fort intéressé par la gente féminine, mais freiné dans ses pulsions par la crainte des maladies récemment importées des Amériques. Pierre Favre, son cochambriste, est bien différent. Il appartient à une famille très simple de Savoie. Il est fervent et assidu aux études. Son rayonnement en impose, mais l'amitié entre les deux étudiants sera longue à se forger, d'autant qu'en 1528 surgit un troisième homme dans la chambrée, Ignace de Loyola, un noble, plus âgé que les deux premiers occupants, et déjà ardemment converti. Au début, François est choqué par le sérieux, l'humilité, la grande pauvreté de son nouveau compagnon. Ignace se tait, mais il recrute des étudiants pour les répétitions que donne François. Il lui prête même directement de l'argent une fois ou l'autre, et distille délicatement des interrogations quant au mobile profond de son jeune compagnon. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme ? Ainsi, l'exemple et les paroles d'Ignace font leur chemin dans le cœur de François, à tel point qu'après 3 ou 4 ans de cohabitation et de confrontation pas toujours facile, une amitié indéfectible va naître et croître entre eux. Elle portera des fruits précieux pour une plus grande gloire de Dieu. Mais en attendant, la lutte aura été âpre. Ignace reconnaissait que dans ses efforts apostoliques, la plus rude patte qu'il ait jamais maniée, c'était au tout début ce jeune François de Xavier. Désormais, François est définitivement acquis. Il s'intègre à la première petite équipe des 7 amis. Ensemble, à Montmartre, le 15 août 1534, il prononce à titre privé les vœux de vivre pauvrement et de servir Dieu, de préférence à Jérusalem, ou autrement, selon le désir du pape, si le voyage vers la Terre Sainte s'avère impossible à cause de la suprématie maritime des Turcs. Dans la foulée, François accepte maintenant de faire les exercices, c'est-à-dire de vivre un itinéraire spirituel vigoureux, fruit de l'expérience de son maître Ignace, et que ce dernier propose à ceux qui veulent progresser en amour. Là-dessus, on se sépare en se donnant rendez-vous à Venise en 1537 pour s'embarquer vers Jérusalem. Impossible de traverser la Méditerranée. Là, les Turcs bloquent le passage. Les amis se dispersent donc dans le nord de l'Italie. Ils prêchent au carrefour, assistent les malades dans les hôpitaux. Le petit groupe d'amis se prépare à l'ordination sacerdotale. François est ordonné le 24 juin 1537. Après avoir fait retraite d'action de grâce dans un ermitage, il rejoint l'équipe à Rome où le pape Paul III les reconnaît comme un nouvel ordre sous le nom de Compagnie de Jésus. C'est alors qu'Ignace envoie François aux Indes orientales à la demande du pape et du roi du Portugal. Il embarque à Lisbonne le 7 avril 1541 sur la Carac Santiago. Ce navire est magnifique pour l'époque, mais en fait, il n'a que 50 mètres de long et près de 1000 personnes sont entassées à son bord. L'inconfort est total et la promiscuité affreuse. Par le cap de Bonne-Espérance et le Mozambique, le Santiago arrive à Goa le 6 mai 1542, un an et un mois après le départ de Lisbonne. À demain.